Info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. La première dame des États-Unis, Melania Trump, est arrivée ce mardi au Ghana, première étape de sa tournée d'une semaine en Afrique, où elle se rendra également au Malawi, au Kenya et en Égypte. Pour ce voyage diplomatique et humanitaire, selon les termes de sa porte-parole Stephanie Grisham, l'épouse du président Donald Trump entend mettre l'accent sur les enfants et le travail en Afrique de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement. Au Cameroun, forte tension dans les régions anglophones. Le président Paul Biya doit se rendre ce mardi à Boya, chef-lieu de la province anglophone du Sud-Ouest, à quelques jours de l'élection présidentielle. Le point avec Raïssa Girondin.
La venue du président camerounais à Boya est annoncée pour aujourd'hui. Ce sera sa première visite en zone anglophone depuis le début de la crise fin 2016. Après Maroua, dans l'extrême nord samedi dernier, ce sera son second déplacement de campagne avant le scrutin de dimanche. Pour le moment, aucun des 9 candidats n'a tenu de meeting dans les villes anglophones. Hier, les rues de Bamenda et de Boya, les deux capitales régionales, sont restées vides, sauf pour beaucoup de militaires qui mènent des patrouilles. De leur côté, les séparatistes avaient appelé à des opérations ville morte pour célébrer le premier anniversaire d'une proclamation symbolique d'indépendance. Avec le couvre-feu de 48 heures hier à Boya, les transports publics et privés ont été interdits, les entreprises et les débits de boissons sont restés fermés. Dans la matinée, des tirs ont été entendus dans certains quartiers de la ville. C'est dire que la venue du président Biya sera certainement sous haute surveillance policière.
Au Tchad voisin, pas de rentrée scolaire comme prévu lundi dans le secteur public, touché par une grève des fonctionnaires qui avait déjà manqué l'année scolaire 2017-2018. Les détails avec Ekia Badou.
Les établissements primaires et secondaires du secteur public sont restés fermés à N'Djamena. Par contre, dans les établissements privés, la rentrée s'est déroulée normalement. La rentrée universitaire a été timide début septembre, les étudiants revenant surtout pour des cours de rattrapage. L'année scolaire passée, les élèves du public n'ont eu que 4 mois et demi de cours au lieu des 9 mois prévus. Une grève de la fonction publique pour réclamer le paiement intégral du salaire des agents d'État après une nouvelle coupe fin 2017 paralyse la plupart des services publics, dont la santé et l'éducation. La grève, débutée en janvier, a été suspendue en mars avant de reprendre à la fin mai. Les syndicats accusent le gouvernement de non-respect de l'accord qui devait supprimer les coupes salariales. Début 2015, le gouvernement de N'Djamena a mis en place des mesures d'austérité, dont des coupes chez les 92 000 fonctionnaires qui ont perdu un tiers de leur revenu total depuis 2016.
Enseignement en Afrique toujours, en Guinée-Bissau, 3 syndicats d'enseignants sont en grève pour 30 jours depuis lundi. Objectif, réclamer le paiement d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Morgane Guiriec.
À Bissau, la capitale, les écoles secondaires étaient fermées, mais les écoles primaires fonctionnaient après l'appel à la grève lancé par le syndicat national des professeurs, le syndicat démocratique des enseignants et le syndicat de l'enseignement supérieur. Depuis plusieurs années, les enseignants bissau-guinéens revendiquent le paiement d'arriérés de salaire des enseignants contractuels, l'adoption d'un plan de carrière et de meilleures conditions de travail. Après une grève de 2 semaines, ils avaient signé un accord avec le gouvernement le 27 novembre dernier qui prévoyait d'aligner la grille des salaires des enseignants sur celle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon Madame Kassama, président par intérim du SINAPROF, le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. À la fin août, les fonctionnaires ont mis fin à une série de grèves après un accord avec le gouvernement sur une revalorisation du salaire minimum qui doit passer de 20 000 francs CFA à 50 000 francs CFA.
Au procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, deuxième jour ce mardi des audiences sur la demande d'acquittement du prévenu accusé de crimes contre l'humanité. Des centaines de partisans de l'ancien président ivoirien sont venus lui apporter leur soutien sur place hier. Eric Maniratiza.
La défense demande un non-lieu total. Après plus de 2 ans de procès, elle estime que les éléments de l'accusation sont insuffisants pour prouver les charges au-delà de tout doute raisonnable. Les demandes sont similaires dans le camp de la défense de Charles Blégoudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, fidèle à l'ancien président. Les deux hommes sont accusés de crimes contre l'humanité, notamment de meurtre, viol, persécution. Ils ont tous les deux plaidé non coupables. Devant le centre de détention de la CPI, des centaines de partisans sont venus manifester leur soutien en scandant « Libérez Gbagbo » sous l'œil de dizaines de policiers. Les débats ont été diffusés sur grand écran, notamment à Onono et Yopougon, des quartiers populaires pro-Gbagbo à Abidjan. Les audiences devant la CPI sur la demande d'acquittement se tiendront jusqu'à vendredi. La décision des juges pourrait prendre plusieurs mois.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée, célébration du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance par Ahmed Sékou Touré. La Guinée a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir sa souveraineté de la France, après avoir voté non le 28 septembre 1958 au référendum instituant une communauté franco-africaine proposée par le général de Gaulle. Au programme ce mardi à Conakry, une grande cérémonie présidée par le chef de l'État guinéen Alpha Condé au stade du 28 septembre en présence de plusieurs leaders africains. New York, l'Assemblée générale de l'ONU qui vient de s'achever dans la grande métropole de l'Est des États-Unis a accueilli des centaines de chefs d'État et de gouvernement. La question migratoire a été au menu du débat général. Selon LHC, le patron de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la protection des migrants ne devrait pas passer au second plan. M. Si a fait des plaidoyers auprès des décideurs pour le respect de la dignité des migrants. On écoute une interview de Raissa Girondin.
Il s'agit donc d'une part de rappeler l'état des souffrances humaines qui existent de nos jours, et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour voir comment amoindrir ces souffrances, comment sauver le maximum de vies, mais surtout comment contribuer à aider les gens à recouvrer ce qu'ils ont perdu en cours de route à cause de tous ces chocs, leur propre dignité humaine. Comme les Nations Unies quand même, c'est un forum politique où les dirigeants du monde se trouvent, il faut faire un plaidoyer pour que des solutions politiques soient apportées aux problèmes politiques.
Qu'est-ce que vous pensez que les dirigeants, les leaders africains devraient faire en plus pour pouvoir corriger ce problème de la migration?
Il faut mettre les choses en perspective. La migration, c'est un phénomène humain naturel. Mais ne nous voilons pas la face, il y a aussi cette migration internationale et cet espace, malheureusement, a été laissé aux trafiquants et aux passeurs qui en font un business, qui gagnent jusqu'à 35 milliards de dollars par an, selon l'OIM, en exploitant les misères humaines, en vendant des illusions aux gens. Et au bout du compte, plusieurs jeunes Africains meurent dans le désert, plusieurs jeunes Africains meurent en mer Méditerranée. Et que doivent faire maintenant les dirigeants? C'est d'abord prêter une attention particulière à ce phénomène. C'est également aussi protéger les gens le long des routes migratoires. Il ne s'agit pas de leur dire partez ou ne partez pas, mais qu'ils aient quand même une décision qui soit informée. Il s'agit également aussi de prendre ses responsabilités par rapport à ses propres citoyens. Ces gens qui meurent, ben, c'est un silence assourdissant autour de cela. Et ce sont nos volontaires du Croissant Rouge libyen sur les berges de la Méditerranée qui les enterrent sur place. Ceux-là qui retournent souvent parfois ne bénéficient pas d'un retour digne, ont la honte de leur communauté et ceci n'encourage pas seulement.
Parlons des travailleurs même de la Croix-Rouge. Qu'en est-il de leur sécurité?
La Croix-Rouge est née dans un champ de bataille. C'est là où il y a le plus de besoins. Malheureusement, c'est là où il y a le plus grand danger. D'abord, on se forme sur les dangers pour pouvoir mieux les gérer. On s'équipe pour se protéger contre les maladies. Vous avez sans doute vu les équipements des personnes qui font les enterrements au niveau donc, des épidémies d'Ebola. Mais quand on aura fait tout cela, on n'élimine pas tous les risques.
Est-ce que vous avez déjà eu un travailleur contaminé par la maladie d'Ebola?
En Sierra Leone, la dernière fois, quand il y avait l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, on a eu un chauffeur qui, dans le cadre maintenant du transport des personnes décédées, était contaminé. Heureusement, on ne l'a pas perdu. Dans les situations de conflit, on n'y parvient pas toujours. On a perdu beaucoup de volontaires et de staff en Syrie. Près de 67 d'entre nous, ils sont morts. Au nord du Nigeria, ils ont exécuté froidement une sage-femme de la Croix-Rouge qui y travaillait. Les gens qui vivent dans ces régions, on vient, on leur apporte de la santé, on leur donne des vivres, ils crient pour la paix, ils aspirent à leur dignité. Et c'est la raison pour laquelle ce plaidoyer est extrêmement important.
Et là, je suis secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il était interviewé à New York. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.